Les nuits de France Culture.
Dans le quatrième des entretiens à voix nue qu'en 1990, Cécile Amcy consacrait à Jean Houry, ce n'était plus de son histoire, du parcours qu'il avait conduit à fonder la clinique de Laborde dont il était question, mais de son métier de psychiatre, de ce que lui avait appris 40 ans de pratique sur la meilleure manière possible pour un thérapeute et une institution thérapeutique d'accueillir la maladie mentale et plus particulièrement la dépression et la schizophrénie. Dans cette émission, en s'appuyant sur différents cas auxquels il avait été confronté, Jean Houry soulignait l'importance de l'attention qu'il fallait apporter aux conditions dans lesquelles s'établissait le diagnostic, en s'inquiétant par ailleurs du pli que prenait la psychiatrie en Europe sur ce point. À l'écoute de cet entretien, on entendra que la psychothérapie est une discipline difficile qu'il convient d'exercer avec prudence. Cherchez toujours à établir le contact, à gagner la confiance d'une personne bien souvent enfermée dans une carapace caractérielle très résistante. Une personne dont la personnalité s'effondre, s'appliquer à pratiquer avec elle l'art de la conversation. Entrer dans le paysage du schizophrène, être là où se manifeste quelque chose, là où l'on peut parler, disait Jean Houry, dont on peut affirmer qu'il aura travaillé avec quelques autres à faire de Laborde le lieu du meilleur accueil des maladies mentales. À voix nue, Jean Houry, quatrième des 5 entretiens, diffusé le 27 septembre 1990 sur France Culture.
À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Jean Houry s'entretient avec Cécile Amcy. Quatrième entretien.
Alors, est-ce qu'on peut parler de cas particuliers de... Disons de schizophrène créatif. Vous avez quand même écrit un livre. C'est quoi? C'est une série de...
Ah ben c'est voilà,
c'est séminaire.
C'est paru chez Galilée. Là, oui. C'est création en schizophrénie.
Schizophrénie.
C'est le recueil, disons, d'un séminaire que je faisais à Paris 7 pour la fin d'études de psycho. Et alors pendant
86,
87.
Jusqu'à 88 ?
Pendant 2 ans, mais pendant 2 ans, parce que pendant la deuxième année, il y a eu des grèves, il y a un tas de trucs. Alors on passe du mois de novembre ou décembre au mois de mars ou fin février,
oui, oui.
Parce qu'il y avait toujours des trucs. Mais c'est quand même sur 2 ans. Alors c'est le recueil, disons, de ce que je fais toujours, d'improvisation, hein, c'est jamais écrit. Alors c'est des fois plus compliqué, parce qu'il faut après reprendre, puis quand même corriger. Des répétitions, il y a pas mal de répétitions là-dedans, mais c'est des répétitions prises dans des contextes un peu différents à chaque fois. Oui. Mais c'est donc le recueil de ça, de ce séminaire, on appelle ça.
Alors bon, les séminaires s'adressent à des gens qui sont des étudiants et qui sont intéressés professionnellement à ce type de questions.
Oui.
Mais pour nous qui sommes des non-professionnels et à la fois de la psychanalyse et à la fois de la psychiatrie, qu'est-ce que ça peut nous apporter, ça? Moi, j'ai l'impression que ça peut quand même nous apporter quelque chose.
Ben, j'espère bien.
Ben oui. C'est-à-dire
d'ailleurs,
que...
D'ailleurs, vous êtes certainement mieux préparé que les étudiants qui écoutaient ça, parce que c'est pas pour dire du mal, mais c'était pas homogène. Mais ça suivait 2 autres années. 2 ans avant, pendant 2 ans, j'avais fait la même chose, un séminaire comme ça, qui n'a pas été du tout édité. c'était justement sur la schizophrénie. Et en particulier, c'était un peu pour prendre position là, vis-à-vis de toute une polémique de remise en question actuelle, de façon artificielle, des cadres de la schizophrénie. J'avais intitulé ça « À propos des symptômes primaires de la schizophrénie ».
Qui sont ?
Ah, ben voilà. On va pas développer ça, mais c'est les symptômes de base, comme ça, qui ne sont, ce sont des invariants. On dit, ça, c'est vraiment schizophrène. Par exemple, il n'y a pas besoin d'être apparemment délirant, comme ça, ou d'être bizarre pour être schizophrène. Il y a des processus schizophréniques à bas bruit. Par exemple, je me souviens d'une schizophrène qui était vraiment schizophrène, parce qu'on dit vraiment, parce qu'on reçoit beaucoup de gens étiquetés schizophrènes qui ne le sont pas. C'est des psychoses hystériques ou des névroses graves, mais vues dans des conditions où il n'y a pas possibilité de bien que les gens qui les envoient sont des gens très, très qualifiés, soi-disant, mais il y a de tels préjugés.
Peut-être à cause de ça, d'ailleurs.
De tels préjugés de milieu. Pour pouvoir examiner quelqu'un, il faut être dans un milieu où il n'y a pas d'artefacts. Où il n'y a pas de pathoplastie énorme, comme je dis. C'est-à-dire de modifications du tableau clinique d'après les erreurs, on peut dire, d'agencement administratif et autres. Donc, une personne comme ça, une vraie schizophrène, ce coup-là, qui correspond à toute la description qu'avait faite Toscaïès dans sa thèse. Le vécu de la fin
du monde dans la folie.
Qui date de 48, et qui a été édité, on lui a pris pour l'éditer plutôt, 40 ans plus tard.
Oui, récemment.
Et alors, il dit bien que on trouve toujours une catastrophe, une coupure dans l'existence, catastrophe existentielle, qui peut être vécue comme fin du monde, qui est une fantasmagorie, mais enfin qui est fréquente, Si on cherche bien, on la trouve presque toujours.
Oui. Chez les schizophrènes ou...
Et chez d'autres aussi.
Vous levez la main en disant ça. Et chez d'autres aussi.
Voilà. Non, je dis ça parce que Toscaïès l'avait d'abord fait chez les schizophrènes. Et puis peut-être, en réfléchissant certainement, puis on en a parlé comme ça. Et puis il s'est aperçu qu'il y avait d'autres, en particulier moi aussi. Je devais avoir un fantasme de fin du monde. C'est ça l'inanité et tous ces machins-là.
De précaire.
Ouais. Bon, enfin, pour en revenir à ça, cette personne-là, elle décrivait son expérience hallucinatoire ou délirante, mais d'une façon, et même après, son expérience existentielle, sans que ça soit apparemment ni hallucinatoire ni délirant, d'une telle façon que j'ai dit, ça c'est schizophrénique. Un discours, si vous voulez, le contenu du discours, parfait. Mais trop parfait. Avec un rythme. Parce que quand on parle, on voit bien que la parole, c'est loin d'être parfait. Heureusement. Alors on fait on finit par les phrases. Mais c'était des phrases magnifiques.
Sans faille.
Comme si c'était écrit.
Sans vide.
Avec un rythme. Et en même temps, avec ce qu'on peut appeler une pesanteur. Les mots étaient trop pesants.
Pesant dans quel sens ? C'est un côté pesant. Compact
Pesant, comme ça. Pesant. C'est difficile à dire. Pesant, c'était presque des mots-choses.
Oui, mais justement, c'est ce qu'on dit de la schizophrénie, que les schizophrènes prennent les mots pour des choses.
Oui, c'est ça, on dit ça.
On dit ça.
Et on sentait ça.
On le sent, vous le sentez.
On sentait justement, comme dit Freud, c'est le processus primaire qui envahit les mots, qui deviennent des choses. Bien que le discours était cohérent et racontait des choses banales, mais d'une telle façon de rythme, on sentait la poésie pas loin, enfin un côté poétique pas loin, et des mots pesants. Et alors je dis, c'est une schizophrénie grave. À cause de ça. C'est pas parce qu'on a des délires extraordinaires, ça c'est souvent pas grave du tout. Hein. Les choses les plus voyantes. Mais ça, il faut faire attention. Et c'était vrai. Ça s'est révélé comme ça. Hein. C'était le début d'un processus comme ça, de destruction de la personne. C'est intéressant ça.
Quand même. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Ah ben à ce moment-là, d'une part, il faut une mise en confiance maximum. Par exemple, elle était présentée parce qu'en même temps, il y avait un comportement pathologique, même chez elle.
Qui s'exprimait de quelle façon?
Qui demeurait très loin, à 300 km. Chez elle, bah, par des fugues, par des agressions, par des replis, par des abandons, par une perte de rendement dans son travail, et puis des fugues avec tentative de suicide, des choses comme ça. Et en même temps, par tout un système de persécution, de mise en accusation de ses parents, de prévenir le commissariat qu'on allait la tuer, enfin, etc. C'était la fin du monde en même temps. Des choses très pathologiques. Et alors, les parents avaient essayé de l'amener voir des médecins, etc. Puis ça n'avait pas gazé du tout, au bout de quelques mois seulement. C'était au début tout ça.
Elle avait quel âge, cette jeune femme?
22 ans. Oui. Et alors, ils l'ont amenée ici, après le conseil d'un médecin de Paris, croyant qu'ici, on allait la garder. Et ils l'ont amenée, les parents l'ont amenée. Et puis j'ai parlé avec la jeune fille qui était... Très bon contact, apparent. Très bien. Et puis j'ai dit, voilà, en fin de compte, au bout d'un certain temps, comme ça, au bout de quelques minutes, j'en ai vu les parents. Et puis j'ai dit, non, non, elle ne veut pas rester là. Donc il faudra revenir. C'est un contrat que j'avais fait avec elle. Et vous ne restez pas là, vous ne voulez pas, non, non. Il aurait fallu sauter dessus, ça aurait été terrible. Hein. Vous ne voulez pas rester là, vous ne restez pas là. Bon, d'accord, mais on se reverra quand même. Hein. Et puis il y avait le. Ce que je disais, le toucher, le contact. Hein. Hein. Le tact et le contact. Et alors, elle a senti ça. Donc il y avait un point de confiance.
Oui.
Et j'étais sûr qu'elle reviendrait. Donc j'ai dit aux parents, ramenez-la. Elle reviendra. Et on va même fixer un rendez-vous. Et j'étais pas content. Après avoir fait tout ce bastringue de voyage à Paris, de venir ici, de retourner là-bas, ah, ils n'étaient pas contents. Je dis, c'est comme ça, ou alors ailleurs, hein, parce que on perdra du temps si on force. C'est ça l'accueil. Alors elle est revenue 8 jours après, on continuait de parler, c'est ça. Et puis, je voulais rester, alors faire visiter, comme ça, appeler d'autres malades, comme ça, pour sympathiques, comme ça. Elle dit non, je ne veux pas rester. Elle dit bon. J'ai dit aux parents, ramenez-la. Ah, j'étais encore bien moins content. Hein. Alors, je crois que 8 jours après, je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'elle a accepté. D'elle-même, elle a dit, je reste avant que je lui demande. Et puis, elle a dit, à un moment donné, le lendemain, ici, attends, je ne me souviens plus bien de la phrase. Ici, c'est le milieu par excellence.
Le milieu.
Le milieu, un truc comme ça, quoi. Par excellence.
Par excellence.
Bien, c'était choisi, hein, comme.
Oui.
Ah, c'était énorme, hein. Hein. Donc, elle est restée là. Bon, peu après, il y a tout un développement. Mais enfin, ça, c'est pour dire les précautions, disons, de prise en charge. Il faut essayer au maximum. Même dans des structures psychotiques très graves, d'avoir un contact et la confiance.
Ouais. Qu'est-ce qui peut créer ce sentiment de catastrophe existentielle, cette dislocation et comment, qu'est-ce que vous avez fait par exemple dans ce cas précis après et comment ça s'est terminé cette histoire-là? Bah,
c'est là qu'il y a vraiment un effondrement.
Un effondrement de la personnalité.
Ce qu'on peut dire au niveau... si on peut, structural, au niveau du narcissisme originaire, il me semble, ce qu'on appelle narcissisme originaire, qui est un problème pas résolu. Hein. C'est pas le narcissisme spéculaire dont parle Lacan, c'est narcissisme originaire. C'est-à-dire ce qui fait le fin fond, enfin l'étoffe, on peut dire, ce que j'appelle la ilé, hein, la matière, le matériau plutôt. Je dis l'énergeia, c'est beaucoup mieux. Hein, c'est-à-dire l'énergie, mais pas l'énergie du pétrole, quoi. Le rayonnement de quelqu'un, ce qui alimente la présence, ce avec quoi il va pouvoir être avec les autres, etc. Or, c'est ça qui est détruit ou qui se détruit.
Mais comment ça se
qui s'effondre,
pourquoi,
hein.
Comment ça s'exprime?
Voilà, mais c'est le mystère de la schizophrénie.
C'est mystère, c'est un mystère. Hein, c'est pour ça que vous parliez de transcendance.
Il y a aussi bien des épisodes, disons, de fragilisation, même biologique, là, hein, qui ont, bon, suivant un tas d'écoles. Mais il y a des gens qui sont plus ou moins solides. Peut-être que ça ne serait jamais arrivé s'il ne s'était pas présenté tel événement qui mettait en question cette sorte de réserve d'énergie dont elle n'était pas capable. Et qui, alors là, on voit bien que tout ce qui s'est passé dans la famille est souvent avant, enfin, dans plusieurs générations. Il faut plusieurs générations pour fabriquer un schizophrène, au fond. Hein.
On dit qu'il en faut trois.
Oh oui, deux
plus.
Ou trois. Bon, ça suffit déjà.
Hein. Ça suffit amplement. Ouais.
Hein, c'est un bon travail. Hein. Ouais. Et alors, et en même temps, peut se faire aussi quelquefois des épisodes encéphalitiques qui sont passés inaperçus. Hein, de ce que certains appelaient, des neurologues appelaient, une certaine forme d'abiotrophie. C'est une sorte de vieillissement trop rapide du système nerveux, par exemple, qui vieillit plus vite que le reste, sans que ça soit une atrophie. Hein. Des choses comme ça. Hein.
Ouais.
Mais enfin, une fragilisation.
Ouais.
Et alors, plus des conflits névrotiques habituels, hein. Hein, comme tout le monde.
Comme
hein.
Tout le monde.
Hein. Ouais. L'Édipe, si on veut, ou je ne sais pas quoi, la castration, les rencontres ou pas qu'on a fait, ou un tas de machins comme ça.
Ouais.
Qui sont là. Alors, justement, c'est... Et chez des gens un petit peu fragilisés, il y a toute une sorte de carapace caractérielle, hein, comme disait Reich.
La cuirasse caractérielle.
C'est ça, oui. Et qui est là souvent une forme de défense contre la fragilité.
Oui, d'autant plus rigide.
Alors si on attaque cette carapace caractérielle, soit pour des raisons, disons, de la vie courante, hein, ou des événements, soit pour des thérapeutiques qui ne tiennent pas compte de la fragilité, hein. On voit par exemple des psychanalystes non informés qui prennent en analyse des gens qui ont une structure sous-jacente d'une fragilité schizophrénique, ben, qui au bout de quelques mois déclenchent un délire schizophrénique. Hein. Et à ce moment-là, alors quoi, hein. C'est pour ça que je dis que c'est inséparable. Et que l'analyse des psychoses, c'est quelque chose de tout à fait spécifique.
C'est inséparable, la psychiatrie de la psychanalyse.
Ben oui. On n'analyse pas un psychotique comme on va analyser un normopathe.
Tout ce processus ensuite de reconstitution de la personnalité, comment ça se fait?
Alors, par exemple, à un moment donné... Justement, c'est ça l'importance de la conception, on peut dire, multidimensionnelle de la personne. On voit bien, par exemple, mais, ce qu'il y a, faut se méfier, parce que quand on parle de techniques comme ça, biologiques, ça a tellement dégénéré dans l'usage qu'on en a fait, hein, que pendant tout un temps, on était très mal vu quand on en parlait. Par exemple, électrochoc, insuline, même technique de groupe. Par exemple, celui qui a mis en place l'électrochoc, en particulier, c'est Cerletti. Hein. Cerletti, enfin de Rome. Hein. Cerletti, c'était un type extraordinairement humain. Ben, et justement, qu'avec l'électrochoc, les techniques d'électrochoc... Il a pu vider la moitié de l'hôpital, hein, pour essayer de resocialiser les gens. Hein. Et alors, ce qu'il faut, justement, c'est être vigilant, c'est être là, hein, être là tout le temps. Hein. Parce que cette maladie, quand je disais, ça me revient là, c'était pas le milieu par excellence, c'est le lieu par excellence, c'est beaucoup mieux qu'elle disait. Ici, c'est le lieu par excellence. C'est magnifique, ça. Mais alors, bon, on peut dire un mot. Après, bon, elle n'est pas restée longtemps, mais elle était vue très, très régulièrement, plusieurs fois par jour, dans ce discours où elle parlait. Mais ce qui maintenait son discours, parler, c'était de voir le psychothérapeute écrire en même temps ce qu'elle disait. C'était pas du tout gênant pour elle, au contraire, ça la maintenait. Parce que c'est dans ce sens-là, ce discours était comme une écriture, qu'on disait tout à l'heure, avec le même poids. Mais alors après, donc, elle est partie comme ça, et alors la famille a préféré, au bout d'un mois, la rapprocher de chez elle, de chez eux, quoi, dans une autre clinique. Mais alors, ce qui arrive, pas simplement pour cette famille-là, mais même sur le plan administratif, comme on voit maintenant, et sur le plan des décisions comme ça intempestives aussi, bien au point de vue de l'organisation du secteur des hôpitaux, etc., c'est que les gens ne sont pas sensibles du tout. Non, pas, c'est pas méchant, mais ils comprennent pas à ce qu'on appelle le transfert. Alors là, il y avait un transfert qui s'était manifesté déjà dans ce choix même, le lieu par excellence, et en même temps cette relation fine avec le psychothérapeute. Hein. Mais ça, ça compte pas, ça se voit pas. Alors, si vous voulez, la maladie. Hein.
Mais hein. Encore une fois, cette malade.
Elle aurait pu décider.
Oui.
Elle était schizophrène. Ouais. Ça demande un soutien. Et la schizophrénie, justement, c'est souvent une impossibilité de décider. Elle avait décidé parce que je la soutenais quand elle venait. C'était une surprise, presque. Mais la décision, comme ça, une sorte d'ambivalence, une sorte de...
Parce que les gens...
D'approximatif.
Les gens qui pourraient être finalement les plus émus, au sens fort du terme, par cette maladie qui s'empare de quelqu'un, ce sont les proches. Pour être...
Mais c'est tellement bizarre. Les proches, en général, la famille, même souvent bien intentionnée, et plus c'est bien intentionné, plus des fois c'est difficile à traiter, essayent de ramener toujours, par des arguments, disons, normatifs, en disant, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis idiot ce que tu racontes? C'est pas la fin du monde, non? Ça va pas, non? Enfin, des trucs comme ça. On voit bien également, ce qui fait vraiment la majorité de la clientèle, comme ça, toutes les formes de dépression, qui est énorme, un monde énorme, la dépression, qui ne sait pas la mélancolie. Hein. Ça a été confondu longtemps en France. Hein. Alors, toutes les formes de dépression, on voit bien les premières réactions des familles. C'est de dire, enfin, qu'est-ce qu'il a? Il se lève plus, il ne peut plus rien faire. Il devient paresseux maintenant. Alors, un peu de courage, un peu de volonté. Et on voit souvent des généralistes qui disent ça. Enfin, un peu de volonté, mon vieux, hein. Ça va marcher. Hein. Ça va marcher. Et puis voilà, tu pourras sortir. Et puis voilà, il faudrait qu'il rencontre quelqu'un. Il faudrait le marier, ce petit, hein, parce que vous voyez bien, il s'embête, là. Ah, ça ira mieux après. Alors, c'est une catastrophe pour un tas, gâchis généralisé. Mais enfin, et alors, si quelqu'un à qui on dit, mais je me souviens, au début, que j'étais dans une autre clinique, j'avais plein de clientèle comme ça, et je disais, mais arrêtez de dire, un peu de volonté, faut qu'il ait de la volonté pour se lever le matin. Mais je dis, il a plus de volonté que vous, mais bien plus. C'est un petit peu comme si, une montre, je prenais cet exemple-là, comme une montre qui est un peu dilatée comme ça. Chaque truc, ça tourne à une vitesse bien plus grande que votre montre. Hein, mais vous pouvez accentuer ça, mais ça marche pas, ça s'engraine pas. Alors ça le rend malheureux. Après, ça va le culpabiliser. Puis il va se suicider si vous continuez à dire des saloperies pareilles en disant qu'il n'a pas de volonté. Lui qui fait tous ses efforts, comme ça. Dans les dépressions graves, ça.
Ouais.
Et ça marche, hein, ça. Et alors là, pendant ce temps-là, le dépressif, il comprend ce qu'on dit, alors, hein, pas d'histoire. Hein. Il comprend parfaitement. Et petit à petit, bah, faut expliquer à la famille de quoi il s'agit. Hein.
La famille qui a peur d'entendre la vérité, une vérité?
Non, même pas.
Même pas?
Non, c'est une autre logique.
Une autre logique, oui.
C'est très difficile, c'est bien plus difficile que d'apprendre la vérité, de passer d'une logique à l'autre. C'est bien plus difficile.
En tout cas, il faut faire en sorte que... Et c'est votre rôle. Peut-être que ça nous concerne tous, mais il faut faire en sorte que le rôle se reconstitue.
D'expliquer ça. Je me souviens, il y a très très longtemps, on me disait d'aller parler, je ne sais pas où. Je me souviens, c'était près d'Orléans, une fois. Enfin, c'était des gens de la région, quelconque, comme ça, une association. Mais j'ai simplement amené, en changeant les noms et tout ça, en lisant des observations de dépressifs. Mais c'est une révélation pour les gens qui ne sont pas habitués, qu'il y a vraiment autre chose que la volonté, ou je ne sais pas quelle fonction comme ça, ridicule. Hein. Et même la décision. J'ai passé un an à Sainte-Anne à faire tout un séminaire pendant 10 mois sur la notion de décision. Pour essayer de comprendre quelque chose. Ça faudra. C'est une notion capitale, ça. La décision. De même la notion de. On parlait tout à l'heure de la conversation. Et pendant longtemps, je disais, mais en fin de compte, en quoi ça consiste le travail, comme ça. Quand on rencontre quelqu'un qui est soit schizophrène ou déprimé ou hystérique, ce que vous voulez, quoi. C'est d'essayer d'avoir maximum de possibilités, disons, de ce que je dis, d'entrer dans son paysage, d'être dans le même paysage que lui. Et d'être dans le même paysage que lui, c'est-à-dire là où se manifeste quelque chose, sans que je reste devant, comme une espèce de professeur établi, devant quelqu'un qui se présente et dit, mais mon cher, qu'est-ce que vous avez? Mais d'être dans le paysage, hein, dans le même horizonné, comme on dit. Et à ce moment-là, ce que j'appelais l'art de la conversation. Alors, j'étais très content de voir par la suite, il y a relativement peu d'années, que c'était une vue développée, très bien développée, par un type qu'on a oublié un peu, Gabriel Tarde, qui est mort en 1904, et qui était un juriste, mais enfin dont on parle de limitation, on en parle tellement mal, limitation, l'adaptation, etc., mais qui avait fait tout un développement, enfin, avant la lettre, de micro-sociologie. Et lui, il parlait, enfin, je ne veux pas parler de Gabriel Tarde, c'est énorme, hein, mais il parlait de la science de la conversation. Et la science de la conversation, qu'un commentateur dit aussi, c'est l'art de la bifurcation anthropologique. C'est-à-dire, de mener quelqu'un à certaines zones de carrefour, il voit bien dans une consultation. Et c'est pas simplement la liste des symptômes ou fiché comme dans le DSM-3, enfin j'aime mieux pas en parler. On fiche un tableau, on dit voilà, il y a tant de items, ah bon, vous êtes déprimé, comme ça, enfin comme on voit un peu chez le coiffeur dans la revue, hein. On dit, êtes-vous déprimé, êtes-vous anxieux? Alors on remplit un tableau, on dit, ah ben oui, je suis déprimé. Ah, une connerie. Mais c'est utilisé maintenant, ça, dans l'Europe entière. L'Europe de demain, c'est ça. Hein?
C'est ça.
Ah oui, ça serait bien. Psychiatrie. Alors, je dis, ce qui compte, c'est justement d'être là, avec l'autre, là où il est, dans le même paysage, hein, où on puisse parler, même si l'autre ne dit pas grand-chose, mais qu'il puisse s'y reconnaître, hein, qu'on soit un peu un point de repère, plutôt qu'un type de l'extérieur. Et à ce moment-là, il y a une sorte de complicité qui peut s'instaurer, hein, aux moments les plus critiques. Même au moment des épisodes de fin du monde. Hein. Je me souviens d'une jeune femme, il y a très longtemps, qui faisait un épisode de fin du monde. Alors c'était la catastrophe, elle interprétait tout, que les maisons étaient fermées, etc. Et il y avait une espèce de lustre, vieux lustre dans un bureau. Elle comptait les bougies, il y en avait une d'éteinte, donc ça voulait dire que le nombre 7, enfin les machins...
Obsessionnel.
Mais alors, alors la famille disait, bon alors, vous voyez bien, hein, ça tient pas debout ce qu'elle raconte, elle est complètement fada, arrête un peu de dérailler comme ça. Et plus il disait ça, plus ça prenait des allures. Mais il faut entrer dans le délire, ce moment-là. Ouais, on se met à compter les bougies avec elle en disant, ben oui, ça peut peut-être bien dire ça, sans être complice, hein, mais d'être au niveau même de l'émergence, de ce qui est en train de se faire. Et à ce moment-là, l'autre a confiance tout de suite. Elle dit, enfin, un type qui est dans mon paysage, plutôt que de me dire... Et après, on peut conduire très bien à une position critique.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Jean Houry s'entretenait avec Cécile Amsi. Réalisation Marie-André Arminot.
Le quatrième des cinq entretiens à voix nue avec Jean Houry a été diffusé le 27 septembre 1990 sur France Culture. À suivre.